Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 31, Ariana et Oksana, quand la Russie et l'Ukraine dialoguent.
Full Continental, Caroline Gillet, sur France Inter et la RTBF.
Est-ce que vous avez déjà comparé vos murs Facebook avec ceux de vos amis? Ou même avec ceux de vos ennemis? C'était déjà le cas quand on choisissait entre Le Figaro ou Le Monde diplomatique, mais aujourd'hui, de plus en plus, on a accès à des informations, et donc à des mondes, différents. Comment ces divisions se sont-elles créées? Entre nous, tout doucement, like après like, d'un partage ou ajout d'amis à l'autre? Cette question de l'information, de la vérité, elle se pose de façon encore plus radicale entre Oksana et Arina. L'une vit en Ukraine, l'autre en Russie, et on va l'entendre sur plein de sujets, elles ne peuvent pas se comprendre. Et leur division, elle se creuse notamment en ce moment, avec les élections en Ukraine. Quand j'ai parlé de ce sujet à Oksana, qui vit à Kiev, elle me dit qu'elle n'arrivait pas à se décider pour qui voter.
Je ne sais pas pour qui je vais voter.
Et je trouve sa comparaison festive pas inintéressante.
C'est un peu comme la nuit de Nouvel An, je ne sais jamais où je vais la passer avant qu'elle n'arrive.
Vous êtes dans une émission sur la jeunesse européenne. Aujourd'hui, on parle donc de vérité, d'élections et d'Ukraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays frontière entre Est et Ouest, chacun des candidats doit se prononcer. De quel côté regarde-t-il? Vers l'Europe ou vers la Russie? Parmi les candidats, il y a Yulia Tymoshenko, qui a une natte blonde, qui a été liée à plusieurs scandales et qui a fait de la prison. Elle a été libérée en 2014, après la révolution Euromaïdan. Ces manifestations pro-européennes ont commencé à la suite d'une décision du gouvernement ukrainien, alors plutôt pro-russe, de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne. Face à Yulia Tymoshenko, il y a en tête des sondages Volodymyr Zelensky, qui n'a eu des responsabilités politiques qu'à l'écran, dans une série.
Où il joue le rôle du président d'Ukraine, qui est contre tous les méchants, tous les oligarques, qui peut tout changer. Et donc je pense que dans l'esprit de Jean, il s'associe aussi avec ce rôle dans le film. Même quand on voit les articles sur lui, souvent, ils prennent les photos, non pas ses photos de vie, mais les photos du film, tu vois.
Enfin, troisième candidat, l'actuel président Petro Poroshenko. Lui, il avait été élu en 2014, après Euromaïdan. Cette révolution avait chassé le pouvoir en place, plutôt pro-Poutine, mais avait aussi exacerbé les divisions entre les populations pro-russes et celles tournées vers l'Europe. À l'est du pays, des bâtiments publics avaient été pris par des hommes en armes qui rejetaient le nouveau pouvoir à Kiev. C'était le début de la guerre dans le Donbass. Après ces violences, après l'annexion de la Crimée, l'échec de sa lutte contre la corruption et plus récemment un scandale de détournement de fonds, le président Petro Poroshenko est aujourd'hui beaucoup moins populaire. Alors il se présente comme le défenseur de l'Ukraine face à la Russie et il promet de lancer le pays dans le processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN. Parce qu'à l'ouest du pays, ceux qui étaient à Euromaïdan restent inquiets de l'influence potentielle de la Russie. Oksana en fait partie, elle qui travaillait au centre médical sur Maïdan au moment de la révolution en 2014.
Je me rappelle que j'ai ouvert Facebook et que j'ai vu passer le message « Demain, il y a une manif, on va dormir sur Maïdan pour l'intégration vers l'Europe ». Je me rappelle que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui ont commencé à discuter. J'y vais pas parce que... Blablabla. Mmh. Et après, les forces spéciales sont allés pour chasser violemment les manifestants, tout le monde a dit « Et maintenant, j'y vais ».
Oksana a passé des semaines entières sur Maïdan. Et ces événements sont encore évoqués aujourd'hui, en Ukraine et en Russie, utilisés dans une guerre de l'information qui se joue entre les pros et les anti-russes. On va entendre Oksana raconter son histoire, mais d'abord, on voulait entendre comment ces histoires, ces événements sont vécus de l'autre côté, côté russe. Confrontés dans cet épisode, deux récits de deux jeunes femmes du même âge ou presque. L'une et l'autre ont vécu en France, l'une et l'autre sont retournées vivre dans le pays de leurs parents, mais l'une et l'autre sont des deux côtés du rideau de l'information, qui notamment autour de la question ukrainienne, sépare Est et Ouest. Voilà, je vous propose d'aller sur un yacht à Sochi pour rencontrer Arina, jeune pro-Poutine de 27 ans. C'est elle qui a envoyé cette ambiance de la plage, proche de là où elle travaille. Ses deux parents sont de Sochi.
Je vis à Sochi. C'est comme, je sais pas, un village à côté de la mer, avec les montagnes. Et avant les JO, c'était vraiment village, il n'y avait rien à part de touristes en été. Mais les prix ici, c'est comme à Moscou. Après les JO, c'est devenu vraiment un lieu très chic.
Elle-même travaille pour un millionnaire.
Bah, avec mon mari, on travaille sur un bureau privé pour notre patron et pour ses amis.
D'accord.
C'est un peu comme Monaco. Okay. C'est un peu la même chose.
En ce moment, Arina a des journées de travail plus courtes parce qu'en hiver, les clients ne sont pas souvent là, alors on a le temps de discuter. Je lui demande, ça ressemble à quoi, la mer Noire?
Bah, la mer. Je sais pas comment on se peut... Bah, la terre, elle est plus montagneuse parce qu'on a Caucase ici. Et donc, chaque quartier se trouve sur une montagne. Et pour aller à la plage, on descendait l'escalier et ça, on était sur la plage. Donc, voilà.
Son enfance, c'était le milieu des années 90.
C'était plutôt perestroïka.
Elle l'a donc passé en haut de ses escaliers.
On n'avait rien, quoi.
Un des moments les plus marquants de cette période, ça a été le divorce de ses parents quand elle avait 5 ou 6 ans. Et puis en 2001, son père est parti pour la France avec sa deuxième femme.
Il a déménagé, il a tout laissé. Tout laissé tomber et il est parti.
Et toi, comment tu l'as vécu, le départ de ton père? Ça a dû être un moment...
Non, t'y attendais? Non, avec mon père, on n'était jamais très proches.
D'accord.
En fait, c'était une personne qui est assez difficile. Mm-hmm. Mon père, c'était un soldat, on dirait. Il travaillait comme démineur un moment et après comme sécurité de l'État. Et donc aussi, on comprend bien que c'est un peu difficile avec la France parce que les gendarmes, les policiers en France, ils sont assez psychologiquement normaux. Mm-hmm. Il n'y a pas de défaut dans la tête. Avec lui, c'est assez différent parce qu'il était parti à la guerre de Tchétchénie. Quand il est revenu, déjà, il était assez agressif comme une personne. Mm-hmm. Et quand il est revenu, vraiment, dans sa tête, ça n'allait pas. Et en Russie, on n'a pas
l'habitude de prendre en charge le stress post-traumatique.
Oui, l'orgueil ne lui permettait pas d'aller voir un psycho ou quelque chose comme ça. Mais avec l'agression qu'il avait déjà dans sa tête ou dans le son, je ne sais pas, ça allait... difficilement dans la famille. Déjà, quand il vivait avec ma mère, il pouvait la taper ou agresser verbalement. Enfin, c'était assez normal. Donc, on avait l'habitude que ça peut venir. Donc, quand il a divorcé, un peu, ma mère, elle était déjà heureuse que sa liberté est finalement venue.
Et toi, il t'a parlé de ce qu'il avait vécu en Tchétchénie? T'arrivais à comprendre?
Non, jamais. Il n'a jamais parlé ni à ma mère, ni à sa nouvelle femme. Personne.
Arina, dans un premier temps, est restée à Sochi. D'abord avec sa mère, puis quand elle a eu 8 ou 9 ans, comme sa mère n'allait pas bien, elle a demandé à aller vivre avec sa grand-mère paternelle, dont elle était très proche. Cette grand-mère avait été ingénieure, elle travaillait encore. Elle raconte qu'elle avait passé ce deal avec sa grand-mère. Elle était plus gâtée que les autres, certes, mais en échange, elle devait travailler dur à l'école et garder l'appartement propre. C'est cette grand-mère qui lui a appris.
Dans la vie, on n'a rien...
Sans rien.
De nulle part.
Entre-temps, Arina s'est mariée, elle a trouvé ce travail sur un yacht à Sochi donc, et sa vie semble plus douce. Elle m'envoie un son du matin au réveil et un son du soir. Elle me dit, c'est les hommes qui discutent au dîner et qui racontent leurs histoires de jeunesse. Je ne sais plus comment, on se met à parler de politique avec Arina et des manifestations.
En Russie, on n'a pas de manifestation. C'est légal, mais en même temps, c'est très difficile d'avoir l'acceptation de la mairie.
Arina dit qu'une fois, elle a cherché une manifestation organisée et autorisée pendant les Jeux Olympiques, mais qu'une fois arrivée sur place, elle n'avait trouvé personne.
Donc c'était vraiment un peu comme poudre de perlimpinpin, genre les gens ils peuvent manifester, mais en même temps, non, il n'y a personne. La Russie, les gens russes, on n'a jamais envie pour manifester ou pour expliquer qu'on est contre ou qu'on est d'accord. Il y a une hausse de prix, il y a une hausse d'impôts, de je sais pas quoi, n'importe quoi. C'est d'accord, c'est comme ça. Les gens, ils n'ont pas leur propre opinion. C'est comme un troupeau. Donc il y a quelqu'un qui les mène, il dit ce qu'ils doivent penser. C'est comme une l'inception dans la tête. Moi, je suis ici un peu comme un corbeau blanc qui disent ce qu'ils pensent. Et moi, des fois, j'ai un peu l'impression d'être assez différente avec ça. Mais en même temps, les gens, vraiment, ils vivent beaucoup mieux qu'il y a 10 ans.
Et toi, qu'est-ce que tu penses de la politique qui est menée en Russie? Tu dis que toi, tu as un opinion par rapport à beaucoup d'autres.
Moi, j'accepte toute la politique qui se passe ici. Il y a beaucoup de positions. Il y a même Navalny, etc. Donc, moi, j'ai vu comment ça se passe. J'ai une amie qui a son oncle, qui est avocat. Il est dans la partie d'opposition.
D'accord. Donc, Navalny, c'est effectivement le leader de l'opposition.
Oui. Mmh. Et en fait, les gens, ils sont contre. Mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Bah, rien du tout. Déjà, la chute de l'URSS, on est... Le pays, il est parti de zéro, mais bah, après, quand Poutine est venu, bah, déjà en 10 ans, la Russie l'a rattrapé, je ne sais pas, à la place de 10 ans, comme si il y a 20 ans qui sont passés. On va assez rapidement. Mais en même temps, il y a des gens qui disent, voilà, on est pas bien, le salaire, c'est misérable, on ne vit pas bien. Mais en même temps, il y a tout le monde qui voyage, alors que il y a 10 ans, il y a personne qui voyageait, qui pouvait chaque année aller, je sais pas, en Europe ou dans d'autres parties du monde. Mm. Alors que maintenant, si on regarde sur Instagram, combien de blogueurs, combien de gens qui voyagent, qui travaillent, qui gagnent de l'argent, il n'y a pas de tyrannie, il n'y a pas de dictature. Tout le monde est ouvert à toi, le pays est ouvert à toi, il y a beaucoup de choses qui se simplifient, je sais pas, des démarches, même au niveau des impôts, enfin des déclarations d'imposition, c'est très facile. Il y a 15 ans, il y avait des queues pendant des heures.
Et donc, alors tu crois que tout ça, c'est grâce à Poutine? Tu penses que du coup, c'est lié à sa politique qui a permis tout ça?
Oui, parce que c'est vraiment un leader qui fait des choses. Il dit et il fait en même temps. C'est vraiment, on voit le résultat. Il y a beaucoup de gens qui râlent, mais en même temps, ils ne font rien pour améliorer les choses.
Et du coup, tu dirais que Navalny, c'est la même chose, qu'il râle, mais qu'il ne propose pas. Parce que je sais qu'il est très actif pour toutes les questions de corruption. Ça, c'est
la corruption, ça existe, ça existait et ça va exister. Ça ne va jamais finir. C'est dans tous les pays.
C'est qui qu'on entend derrière?
C'est mes amis à côté d'eux.
Qu'est-ce que tu penses du coup du fait que c'est quand même compliqué d'être un opposant politique à Poutine? Tu penses que c'est normal, nécessaire ou tu aimerais que ça change?
L'opposition, c'est toujours difficile. Même en France, l'opposition, c'est toujours difficile. Les gens, ils essayent de propager leurs idées qui sont contre les idées d'État.
Parce que du coup, Poutine, il est au pouvoir depuis bientôt 20 ans.
Déjà, il y a beaucoup de gens, même ma grand-mère, elle dit, après cette élection, c'est pas sûr qu'il va refaire après. Elle dit, voilà, moi, j'ai vraiment peur parce qu'il n'y a personne qui pourrait le remplacer. Enfin, il n'y a pas d'autres personnes. Voilà, ouais. C'est tout.
Je lui parle d'Oksana, la jeune femme qu'on entendait tout à l'heure qui vit à Kiev et qui aimerait que son pays se dégage de l'influence russe et de Poutine. Pour ça, elle avait participé à la révolution Euromaïdan en 2014. Arina me dit qu'elle ne croit pas que ces manifestations en 2014 aient été spontanées.
Je ne crois pas que les étudiants de l'Ukraine, ils pouvaient avoir cette décision sans que quelqu'un leur donne cette opinion.
Je lui demande si elle aurait une question pour Oksana, qui a donc vécu cette révolution.
J'aimerais bien qu'il explique vraiment une personne qui est là-bas, il explique le point de vue des Ukrainiens, comment ça se passe vraiment. Est-ce qu'on dispose de la même information?
Alors on va lui faire rencontrer Oksana et tenter de répondre à cette question. Mais d'abord, laissons le micro à Andrew Bird. Merci Djoubaka pour ce titre, c'est beau, ça s'appelle Sisyphus. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. We'll be right back.
recalcitrant and taciturn. You know I'd rather turn and burn and scale this edifice, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll.
Peut-être que vous nous écoutez depuis Kiev, depuis Moukatchevo ou depuis Donetsk. Peut-être que vous nous écoutez sur France Inter ou sur la RTBF, depuis le sol belge ou français. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'il y a bientôt des élections européennes. Et que parmi les enjeux de ces élections, certains parlent de l'ingérence potentielle de la Russie. Dans Le Parisien, par exemple, je lis qu'il y a peu, plusieurs pages Facebook liées à Russia Today étaient bloquées. Facebook a supprimé 500 pages liées à la Russie, la plupart affiliées à l'agence de presse Sputnik. En France, Russia Today et Sputnik sont dans le viseur des députés qui ont voté en novembre dernier deux lois controversées destinées à lutter contre la manipulation de l'information en période électorale. On va parler ici de guerre d'information et comment cela se traduit, concrètement, dans les vies de deux jeunes femmes. L'une qui vit en Ukraine, à Kiev, et qui a participé à la révolution Euromaïdan en 2014. L'autre qui travaille sur un yacht à Sotchi et qui a une vision très différente de ce qui s'est passé sur cette célèbre place de Kiev cette année-là. Et ce qu'on va faire dans cette émission, c'est les faire se rencontrer. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Kevin Lémonier. Il est maître de conférence à l'Institut français de géopolitique, ainsi qu'au département d'études slaves de l'université Paris 8. On peut le dire, il est spécialiste des questions de cyberspace russophone, notamment. Et il me dit que pour parler de cette influence russe, il faut distinguer deux zones. L'influence dans l'ancienne zone historique, ex-URSS notamment, et puis l'influence dans les grands États, plus à l'ouest.
C'est maintenant que, apparemment, la Ligue du Nord de Salvini en Italie aurait été financée de manière plus ou moins clandestine par les Russes. On sait qu'une banque russe a prêté beaucoup d'argent à Marine Le Pen. On sait qu'il y a une convergence politique et idéologique entre Poutine et Viktor Orban. Bref, il y a aujourd'hui une volonté de la part de la Russie de peser dans les débats internes de l'Union européenne, notamment en promouvant une certaine vision conservatrice du monde, puisque la Russie aujourd'hui est considérée par ces mouvements populistes-là comme un des derniers remparts d'un Occident un petit peu fantasmé qui aurait été épargné par le multiculturalisme, par l'immigration, bref. Mais là, on est dans le soft power, si vous voulez. On est dans quelque chose qui n'est pas répréhensible. Là où les Russes se sont distingués et ce qui leur a permis d'avoir un coup d'avance sur ces questions-là, c'est que ça a été les premiers à utiliser des techniques du marketing digital, c'est-à-dire du ciblage, du clickbait, c'est ce qu'on appelle, pardon l'expression, mais en français on traduit ça par putaclic, c'est-à-dire des contenus sur lesquels on va encourager les gens à cliquer juste parce que ça a l'air marrant ou quoi, et puis ça va générer du clic et donc de l'audimat. Ces stratégies-là, qui sont à la base des stratégies qui existent depuis assez longtemps maintenant pour vendre des choses, les Russes ont été les premiers à les utiliser pour faire passer des idées politiques. Aujourd'hui, le succès des plateformes russes comme Sputnik ou RT dans les pays d'Europe occidentale ne s'explique pas par le fait qu'il y aurait eu une opération russe. Enfin, il y a eu des stratégies, bien évidemment, de développement, d'optimisation, de la visibilité, etc. Mais leur succès est d'abord dû au fait qu'ils sont idéologiquement et politiquement raccord avec une partie significative de l'électorat, enfin des électorats européens. Donc il ne faut pas non plus les voir comme les responsables de la montée des populismes en Europe, ça serait quand même une acheter, parce que ça nous empêcherait de nous interroger sur les véritables causes.
C'est vrai que c'est intéressant de faire le test, taper Poutine sur le moteur de recherche de RT, Russia Today, et voir quel sujet tombe. Il y a ce reportage, 5 ans après le rattachement à la Russie, Poutine salue le patriotisme des habitants de la Crimée. Il y a des inaugurations de centrales électriques. Pas de sujet critique du leader russe.
Cette aspiration au renouveau de la puissance russe, elle a surtout des visées électorales internes en Russie. Il faut savoir que la Russie, depuis quelques années maintenant, est un pays qui connaît une croissance assez faible. Les revenus de la classe moyenne stagnent. Le rouble reste une monnaie faible. On a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. Bref, la situation économique n'est pas terrible en Russie depuis quelques années maintenant. Or, si Vladimir Poutine souhaite conserver son assise quasiment monopolistique sur la scène politique russe, alors il faut qu'il trouve des dérivatifs. Et l'un des procédés dérivatifs qui permet à l'opinion publique de continuer de soutenir ce président, c'est bien évidemment de lancer la Russie dans un certain nombre d'aventures géopolitiques qui mettent en scène le renouveau de cette puissance. Ça va être, par exemple, le rattachement ou l'annexion de la Crimée, appelez-la comme vous voulez. Ça va être l'intervention militaire russe en Syrie, qui coûte les yeux de la tête au budget fédéral russe. Mais les Russes le font parce que c'est aussi une question de prouver au monde qu'ils sont capables de se projeter aussi loin, mais également de mettre en scène le renouveau de cette puissance à l'attention de la population. Et l'influence informationnelle dans nos États occidentaux fait partie de cette mise en scène théâtrale.
En Ukraine, il y a un site qui s'appelle Stop Fake et qui a été mis en place après la révolution de Maïdan en 2014, d'abord par des bénévoles. Aujourd'hui, il est traduit en plusieurs langues. Oksana ne connaissait pas ce site. Elle me raconte qu'en Ukraine, l'infox la plus connue est celle qui avait été diffusée sur la première chaîne de télévision publique russe, la plus regardée. Une femme se présentant comme réfugiée du Donbass, à l'est de l'Ukraine où le conflit perdure, avait expliqué comment un enfant de 3 ans avait été crucifié par les forces ukrainiennes. L'information était fausse. Oksana me dit qu'en Ukraine, cette expression « garçon crucifié » est depuis devenue un mème qu'on utilise quand on veut parler de fake news. Oksana, c'est qui ? C'est elle que vous entendiez en tout début d'émission. Pour ceux qui nous rejoignent, mais aussi pour vous qui nous écoutez depuis le début, on vous en remercie. Voilà quelques éléments qu'elle m'a envoyés pour que vous appreniez à la connaître. D'abord, un peu de musique. La première fois que j'ai pris un cours de yoga, écrit Oksana, notre professeur a bien vu qu'on ne savait pas où se trouvaient les organes. Elle nous a proposé d'aller voir une dissection à la morgue, de manière non officielle. J'y suis allée, et puis je ne suis plus jamais retournée au yoga. Quand j'étais petite, mon dessin animé préféré, c'était Les Bisounours, et mon film préféré, Terminator. Oksana a envoyé des sons aussi.
C'est le métro de Kiev.
Gemma, c'est le nom de la première rave party où je suis allée, écrit Oksana. J'ai découvert les raves assez tard, mais elles m'ont beaucoup pris. Elle dit qu'elle a découvert cette sous-culture à l'époque de Maïdan. Aujourd'hui, Oksana est prof de russe et de français. Son père, lui, est prof d'ukrainien. Sa mère, prof de maths. Oksana écrit « J'ai 33 ans et je n'ai pas de machine à laver. Je voudrais enseigner l'ukrainien et pas le russe. »
Moi, je suis prof et en même temps, je travaille dans les boîtes de nuit.
Ah bon ?
Et dans les soirées lesbiennes aussi, à l'entrée, au face control. J'arrive à vite compter l'argent, mettre les bracelets et vérifier les passeports. Ça, c'est parce que je suis pro, je pense.
Toi-même, tu es lesbienne ?
Non.
Non.
Mais je ne sais même pas pourquoi je me retrouve toujours dans cette communauté. Je pense parce que j'aspire à au droit et partout où il y a... Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que je suis lesbienne parce que... je ne sais pas.
Oksana a fait une partie de ses études en France et en Belgique. Et puis, l'hiver 2013-2014 est arrivé, l'hiver de la révolution de Maïdan.
Quand il y avait Maïdan, j'étais à Nice, mais c'était trop difficile de rester là-bas. Donc j'ai demandé à mes professeurs, j'ai dit à tous les profs que je viendrais ici. En hiver, je suis revenue, je crois que j'ai passé 2 mois quand il y avait la révolution ici. J'ai travaillé avec la télévision suisse un peu et je ne dormais pas sur Maïdan, mais j'étais toujours là-bas. Et c'était un des moments clés, peut-être, qui m'a fait revenir en Ukraine après mes études en France, en Belgique.
Pourquoi ?
Parce que je pensais que ça serait intéressant de faire quelque chose dans ce pays, que j'avais le sentiment de patriotisme aussi et de fierté. Que nous avons réussi à faire la révolution. Donc, il y avait plein de choses en même temps. Beaucoup d'espoir.
Et c'est à ce moment-là que toi, tu as décidé d'y aller aussi ?
Je ne sais plus quand exactement, quand j'ai compris que c'est très sérieux, qu'il y a les gens des autres régions qui viennent, que le président, il n'était pas encore en fuite en Russie, mais qu'il est déjà, il se cache. que c'est une vraie changement politique qui est en train historique de se passer. Puis j'ai senti que c'est assez dangereux et c'est difficile d'être loin de tes proches quand tu crois qu'ils peuvent être en danger. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller, mais je me rappelle plus combien de jours se sont passés.
Ça a été une décision difficile pour toi à prendre ?
Non, pas c'était un soulagement au contraire, parce que je passais peut-être quelques semaines en train de regarder les actualités et de toute façon je ne pouvais pas ni travailler ni faire les études, c'était difficile. J'étais émotionnellement très pris par les événements. Maïdan, c'était assez beau, on peut dire ça, et cette unité des gens, que tout le monde vient pour apporter quelque chose, soit à manger, soit les vêtements. Ah, et j'ai travaillé aussi au service médical de Maïdan.
Au début, elle aidait essentiellement les manifestants qui avaient pris froid. Et puis, avec la montée des tensions, il y a eu de plus en plus de bombes artisanales.
Ils ne suivaient pas les règles de sécurité et c'était un peu par leur faute qu'ils avaient des problèmes, des explosifs qui s'explosent dans leurs mains. Ça, je me rappelle qu'il y en avait beaucoup. J'avais envie de les caresser et taper en même temps.
Mais ça devait être très choquant et très surprenant pour quelqu'un comme toi qui débarque sur une zone de conflit, en fait, une zone de guerre.
Je ne suis pas du tout peureuse. Quand il y a quelque chose comme ça, je ne réfléchis pas. Et après, je réfléchis, bien sûr. Après, je pleure, les émotions viennent, etc. Mais pas beaucoup d'hésitation. Ce n'est pas très facile de me choquer.
Comment est-ce que la situation a évolué sur Maïdan ? Comment est-ce que tu as observé, semaine après semaine, les changements ?
Il y avait des petites confrontations. Et puis, il y avait le jour quand M. le Président a donné l'ordre de tirer sur les gens. C'est là que tout a changé d'une manière radicale. Mais je me rappelle la situation un peu embarrassante parce que le premier jour, je travaillais beaucoup. Je travaillais et avec la télévision suisse et au service médical. Et je restais sur Maïdan. Au bout de moi, j'étais hyper fatiguée. J'ai demandé à ma copine d'aller travailler avec la télévision suisse à ma place un jour. Et c'était le jour quand ils ont commencé à tirer. Du coup, c'est ma copine avec les journalistes suisses qui s'est retrouvée dans l'hôtel Ukraine sous les balles en train de déchirer les draps sous la direction des docteurs à...
Pour faire des garrots, pour soigner les gens.
Oui.
Et toi, tu as continué après, quand il a commencé à y avoir des balles
oui.
réelles.
Le lendemain, je suis retournée, oui. Quand il y avait le sang qui a coulé, le sentiment d'injustice est monté encore plus fort et du coup, tout le monde était enragé. Ils ont commencé à prendre les bâtiments. Et là, il y avait de plus en plus de blessés parce qu'il y avait beaucoup de confrontations violentes.
Et après, à partir de cette situation-là, c'est la guerre qui a commencé.
Je me rappelle même plus quand la guerre a commencé. Au début, on l'appelait conflit. Après, on parlait d'invasion des troupeaux russes. Et peu à peu, je ne sais plus quand on commençait à l'appeler la guerre. Je ne comprenais pas comment ça a pu se passer. Parce que je me disais, OK, j'habitais toujours dans ce pays. Jamais il y avait conflit là-bas, ni concernant la langue. Oui, c'est l'agression de la Russie. Mais est-ce ça doit être une décision politique ?
On lui a proposé, à elle, à Oksana, jeune ukrainienne, de discuter avec Arina, jeune russe qu'on entendait dans la première partie de l'émission.
Allô ? Allô ?
Oui, ça va ?
Oui, ça va,
ah, et toi ? Ouais, alors ça appelle. Ça, c'est Arina, jeune russe de Sotchi.
Allô ?
Ah, Oksana ? On ajoute Oksana à la conversation, Oksana d'Ukraine, que vous reconnaîtrez facilement, avec sa voix plus grave.
Oui.
Bon bah coucou, je suis avec Arina qui est sur la plage en ce moment à Sotchi. Je sais pas si t'entends le bruit des enfants qui sont voilà. Et toi t'es où, Oksana?
Je suis à l'extérieur de la bibliothèque dans le vieux quartier de Kiev.
Dans les vieux quartiers de Kiev. Je me disais ça pouvait être rigolo de voir l'une et l'autre. Comment vous vous renseignez, comment vous informez et les visions que vous pouvez avoir qui sont un petit peu différentes de, par exemple, ce qui s'est passé en 2014. Arina, tu peux me raconter l'histoire que tu avais entendue de ta copine qui disait que beaucoup de jeunes étaient payés pour aller à Euromaïdan ? C'est ça, hein, tu avais rencontré quelqu'un qui t'avait dit ça ?
Oui, exact. Enfin, ce sont des gens de Crimée qui racontaient qu'il y avait des gens de l'Ukraine qui venaient pour trouver les gens qui vont aller à Maïdan pour de l'argent.
D'accord.
Pour gagner de l'argent. sur les enfants, on dit que, enfin, les gens qui gagnaient de l'argent sur Maïdan, ils disent voilà, avant on avait de l'argent et maintenant on n'a rien et un pays détruit.
Il aurait mieux fallu ne pas aller faire la révolution parce que le résultat, c'est un pays détruit.
Parce que, oui, voilà, qu'il n'y a pas de résultat. On avait gagné de l'argent, maintenant on ne nous paye pas de l'argent, on est pauvre, on n'a rien et en plus, un pays détruit, quoi. Mm. Voilà.
Et ça, tu vois ça où? Dans quelles informations?
Sur les infos de, sur la télé.
De la télé russe.
Oui.
Et toi, Oksana, tu disais que, tu n'avais pas vu des gens comme ça.
Ça, ça me fait de la peine et carrément, ça me fait mal d'entendre ça. Mal et pitié pour les gens qui pensent ça. Parce que, comme tu le sais, Coraline, déjà, j'étais sur Maïdan, toute ma famille, tous mes amis. Je travaillais, j'étais bénévole quand il y avait les snipers, quand on aidait les blessés. On a tous quitté notre travail, des études. Moi, j'ai étudié en France en ce moment. Je suis revenue de la France. Pour quel argent? De quel argent on parle? On était tous pris par l'idée qu'on voulait plus le président qui était criminel, qu'on voulait des changements, qu'on voulait un pays démocratique, un pays plus libre.
D'accord. Et maintenant, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le président, avec les élections présidentielles? Parce qu'en Russie, on voit sur la télé qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, il y a des manifestes contre l'ex...
Le président actuel s'appelle, son nom de famille est Poroshenko.
Voilà, Poroshenko. Comment ça se passe vraiment en Ukraine à ce moment?
Il y a les manifestations contre Poroshenko parce que la semaine dernière, il y a été un scandale de corruption lié avec l'achat des armes. Et ça, je ne vais pas couvrir. Oui, c'est vrai, son image a coulé. Il y a des manifestations contre le président.
D'accord, donc tous les Ukrainiennes, ils sont contre maintenant, contre Poroshenko.
Non, pas tous les Ukrainiens.
Enfin, la plupart.
Je ne sais pas. Alors, si tu regardes les sondages, Poroshenko est descendu en troisième place dans des sondages.
Oui, d'accord.
Ça dépend. En fait, ça dépend des sociétés qui font les sondages aussi. Et moi, j'ai du mal à croire les sondages parce que les sondages se font par le téléphone. J'ai l'impression que c'est un sondage qui est fait beaucoup auprès de gens de génération un peu de nos parents qui parlent au téléphone fixe. J'ai du mal. Je ne sais pas si je dois croire ou pas au sondage.
D'accord.
Je ne sais pas.
Oh oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toutes les deux quand même... voilà, le rapport à la vérité, il est plus compliqué aujourd'hui. On entend que vous avez accès à des informations très différentes. Arina, du coup, t'as entendu des choses qui visiblement sont fausses. Et ça, c'est pas très tranquillisant, ça, non?
C'est impossible de savoir la vérité. Même, je pense, les infos ukrainiennes, c'est jamais vrai à 100%. De la même, en Russie, c'est la même chose. C'est pareil avec les conflits qu'il y en a avec l'Amérique. Si on regarde les infos de l'Amérique, c'est la même chose. Les Russes, ils sont mauvais et en Russie, les Américains, ils sont mauvais. Enfin, c'est un peu la même chose quand on fait la propagande, etc. Donc, on essaie de manipuler avec les opinions du peuple. C'est vraiment, il faut vivre en pays pour comprendre à l'intérieur.
Parce que toi, comment tu fais, Oksana, pour être sûre que tes informations soient justes et correctes?
Je ne peux jamais être sûre, comme dit Arina, que mes informations sont à 100% justes et correctes. C'est le rôle de journaliste de vérifier les informations. Moi, je peux choisir les médias qui me paraissent plus ou moins crédibles. Par exemple, je ne veux pas que le média soit impliqué dans un scandale ou dans un soutien d'un candidat politique, de quelque chose comme ça, tu vois. J'essaye de regarder comment le président de BBC ou comment le président d'autres pays, vu que je parle français, anglais, l'ukrainien et le russe, je peux lire en quatre langues et du coup, plus ou moins, je me dis que ceci doit être vrai, ceci doit être bon, mais je ne peux pas être sûr à 100%.
En fait, on peut trouver les points communs entre les différents médias et ça, tout ce qui est en commun, ça va être vrai. Et le reste, non.
Et juste une dernière chose, tu sais, on parlait des opposants qui avaient été empoisonnés à Londres, par exemple. Arina, ça, par exemple, on en parle dans les médias russes.
Tu parles de Skripal.
Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a ça, c'est Skripal avec sa fille. C'était Litvinenko. qui avait été...
Oui, on a parlé aussi un peu sur les médias, mais ça, je ne suis pas très au courant. Mm. Plus, c'était sur les Skripal, mais vraiment, c'était très rigolo quand on regardait sur les infos que ce sont des Russes qui essayaient d'éliminer les personnes, c'était mafia, etc. Mais vraiment, ça fait un peu rigolo, anecdote.
Ah oui, donc tu ne relis pas ça du tout avec le pouvoir ou quoi?
Non, pas vraiment, parce que si y a un pays qui veut éliminer quelqu'un, surtout la Russie, on fait ça très tranquillement, que personne va voir, va entendre de ça. Enfin, je trouve pas ça crédible.
Disons, j'ai entendu Ariana rire, et moi je trouve ça pas du tout rigolo qu'il y ait les gens qui meurent pour une raison ou l'autre.
Non, mais je rigole pas parce qu'ils sont morts, je rigole pour les anecdotes qu'on racontait sur les infos, que c'est la Russie, etc. Mm.
Et tu penses que c'est qui?
Non, je veux pas dire à cause de qui ça se passe. Enfin, c'est...
Parce que tu ne sais pas ou parce que tu as peur?
Non, pourquoi je dois avoir peur? C'est juste que je ne peux pas accuser quelqu'un pour qui je n'ai pas de preuves. Enfin, c'est injuste.
C'est vrai. En Ukraine, effectivement, j'ai lu les articles qui mettent coupables les services secrets russes pour la mort de tout ce qui est opposant.
Est-ce que, par exemple, le regard que tu portes sur Vladimir Poutine s'est influencé par ces informations-là?
Non, franchement, je regarde ce qui se passe dans notre ville, en Russie, en gros. Et franchement, ici, c'est plutôt positif, les changements. Il ne fait rien de mauvais au peuple. Donc déjà, c'est pas mal.
Avant de se quitter et de vous quitter, je leur demande de décrire le lieu où elles se trouvent, l'une et l'autre.
Le quartier s'appelle Podiou. C'est l'ancien quartier de Kiev. Et le cinéma que je vais voir, ça fait partie du festival du cinéma des droits des hommes.
Et toi, Arina, tu vois quoi autour de toi? T'es toujours sur la plage?
Non, en face de moi, il y a le théâtre, le grand théâtre de Sochi, qui est de l'architecture soviétique, un peu près soviétique.
Il y a quoi au programme en ce moment?
C'est un défilé de marionnettes avec des gens sur les chameaux.
Merci à Arina et Oksana pour leur confiance. Merci à Martine Messonnier et Constance Cabouret pour le montage et la préparation de cette émission. Merci à Benjamin Riquet pour la réalisation. À Claire Brault pour ses illustrations qui seront sur la page de l'émission Full Continental sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram avec plein de liens qui permettent d'aller plus loin. Et puis lundi, dans la double page de Libération consacrée aux élections européennes, vous retrouverez des reportages sur l'Autriche et un petit bout de Full Continental. On vous embrasse fort. À dimanche prochain.
Et merci à vous Caroline Gillet. À suivre Zoé Varier, une journée particulière. Vous écoutez France Inter, il est 14h.